Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La Covid-19 recule en Europe où les frontières rouvrent, mais la pandémie continue sa progression mortelle en Asie, en Amérique latine. Nous ferons le point avec Louise Baudet et nous irons à Amsterdam où les habitants redoutent le retour du tourisme de masse. Plusieurs dizaines de morts au Mali dans une nouvelle attaque djihadiste contre l'armée malienne. Les bilans des raids islamistes sont de plus en plus lourds au Sahel. Les précisions de Nathalie Hernandez. Première condamnation dans l'affaire Karachi, de la prison ferme pour 6 prévenus, dont des anciens collaborateurs d'Edouard Balladur. La justice enquête sur le financement de la campagne présidentielle de l'ex-premier ministre en 1995. Emmanuel Macron n'est pas favorable aux statistiques ethniques en France. Le président veut clore le débat ouvert ce week-end par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. L'analyse à suivre de Pierre Neveu. Le Baclocure, un traitement à base de baclofène autorisé officiellement pour lutter contre l'alcoolisme. Les explications de Tara Schlegel à la fin de ce journal. Alors que l'Europe accélère son déconfinement à la faveur de bons indicateurs sanitaires, la pandémie de Covid-19 continue à se propager dans le reste du monde. Preuve de l'amélioration de la situation sur le vieux continent, ce week-end, l'Espagne n'a enregistré aucun décès supplémentaire. En Allemagne, seules 3 victimes sont à déplorer sur les dernières 24 heures. En revanche, le virus poursuit sa course mortelle en Asie, en Amérique latine. Signe inquiétant, en Chine, les nouveaux cas se chiffrent par dizaines à Pékin. On fait le point avec Louise Baudet.
79 nouveaux cas en 4 jours. Le chiffre peut paraître dérisoire, mais il inquiète les autorités chinoises. Ces nouvelles contaminations sont les premières depuis 2 mois. Elles semblent liées à un marché de gros du sud de la capitale. Pékin veut montrer que la guerre contre le virus peut être gagnée et sort les grands moyens. Plusieurs zones résidentielles sont bouclées, tous les sites sportifs et culturels fermés. Les clients du marché sont tracés et testés massivement. Inquiétude également au Japon, 47 nouvelles infections hier et en Corée du Sud où de nouveaux foyers apparaissent. Mais difficile d'affirmer qu'il s'agit là d'une seconde vague plutôt que de campagnes de tests qui s'améliorent. En tout cas, la pandémie est loin d'être sous contrôle en Iran où les autorités annoncent plus de 100 morts en une journée, pire bilan depuis 2 mois. En Asie du Sud, les systèmes de santé sont submergés comme en Inde où la ville de Chennai, 15 millions d'habitants, est de nouveau confinée. Le Pakistan s'attend à dépasser le million de cas d'ici fin juillet. Enfin, l'épicentre de l'épidémie se trouve toujours en Amérique latine, Brésil, Mexique, Guatemala, Chili, où le ministre de la Santé a démissionné ce week-end après une semaine de polémiques sur des bilans officiels manifestement trafiqués.
Louise Baudet, merci. Selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, la pandémie de Covid-19 a fait à ce jour plus de 433 000 morts dans le monde. Avec près de 116 000 morts, les États-Unis restent le pays le plus endeuillé devant le Brésil, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. En Europe, ce 15 juin coïncide avec la réouverture des frontières intérieures de l'UE. Une bonne nouvelle, bien sûr, pour les professionnels du tourisme, mais le confinement avait permis à certaines villes d'échapper aux hordes de touristes. Amsterdam, par exemple, attire chaque année 18 fois plus de visiteurs que sa population. Et la municipalité, sous la pression des résidents, veut accélérer la transformation du centre-ville, squatté par les fêtards attirés par le sexe et la drogue. Les célèbres vitrines dans lesquelles les prostituées offrent leurs services pourraient bien déménager en périphérie. Un projet dénoncé par les hôteliers-restaurateurs de la métropole néerlandaise. En attendant le retour du tourisme de masse, Amsterdam respire. C'est un reportage d'Angélique Boin.
Un jeune homme assis au bord du canal passe un coup de téléphone à ses pieds. Des canards s'en donnent à cœur joie tandis que les bateaux bâchés sont à quai.
C'est le quartier rouge ici.
Lex est guide touristique.
Avant la crise, parfois je me trouvais dans un bouchon de promeneurs.
Avec la multiplication des vols low cost, les prostituées en vitrine et les stupéfiants en vente libre, c'était le paradis ici pour les enterrements de vie de garçons. Anita vit dans une maison tout en hauteur, près des canaux.
Bonjour.
Elle milite activement pour ne jamais revoir ce type de touristes.
Beaucoup de jeunes, ils sont sous, ils ont fumé. Tu vois partout des bouteilles cassées la nuit. Trop, c'est trop, quoi.
Paradoxalement, le Covid est synonyme pour elle de soulagement.
Pour nous, c'était un paradis, quoi. Les gens commençaient à se dire bonjour et comment tu vas, et comme c'était avant.
Bars et restaurants ont rouvert début juin, mais les rideaux rouges des vitrines des prostituées resteront fermés jusqu'en septembre. La municipalité réfléchit à les déménager dans un centre érotique en périphérie de la ville. Avant la crise du Covid, on avait déjà pris des mesures, explique la maire d'arrondissement, Machatenbrerkat. Visite guidée interdite devant ces fameuses vitrines, taxe de séjour et amende en hausse pour tapage nocturne, limitation des Airbnb.
Cela n'est pas la bonne image, parce qu'il y a tellement d'autres choses à voir ici. Il y a les canaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a l'histoire d'Amsterdam, les musées, l'art.
Mais le sujet explosif enflamme les relations avec les professionnels du tourisme.
Angélique Bouin, envoyée spéciale à Amsterdam. Le virus peut-il court-circuiter le tourisme de masse? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Voilà un nouveau motif de discorde entre la Russie et les États-Unis. La justice russe a condamné aujourd'hui un ex-militaire américain, Paul Whelan, à 16 ans d'emprisonnement dans un camp à régime sévère. Cet ancien marine était poursuivi pour espionnage lors de son arrestation il y a 2 ans à Moscou. Il était en possession d'une clé numérique contenant des secrets d'État. Paul Whelan affirme avoir été piégé et il peut compter sur le soutien de la diplomatie américaine. Le secrétaire d'État Mike Pompeo dénonce un procès inexplicable. La correspondance à Moscou de Claude Bruyot.
Comme prévu, la partie américaine n'a pas caché sa colère sur place à l'issue du verdict. Whelan lui-même a dénoncé un procès politique dans un tribunal fictif avec des débats à huis clos pour cause de secret d'État et de mesures sanitaires. Quant à John Sullivan, l'ambassadeur américain à Moscou, il a commencé à préparer le terrain d'une éventuelle négociation en indiquant que cette décision, je cite, « aggraverait les relations russo-américaines ». Il n'a pas fallu longtemps à la partie russe pour réagir et laisser transpirer la perspective d'un échange. Très vite, des noms de ressortissants russes ont même été cités par l'agence Interfax. Ils se rapportent au cas du marchand d'armes Viktor Bout et à celui du pilote Konstantin Yaroshenko, emprisonnés tous les deux depuis 2011 aux États-Unis. Le premier purge 25 ans de prison pour trafic d'armes et le second 20 ans de détention pour trafic de cocaïne.
Claude Bruyot, notre correspondant en Russie. Malgré les succès militaires de la force française Barkhane, les djihadistes accentuent leur emprise sur le Sahel. Une nouvelle attaque perpétrée cette fois au Mali a fait plusieurs dizaines de victimes au sein de l'armée malienne. Nathalie Hernandez, c'est un convoi militaire qui est tombé dans une embuscade hier dans le centre du pays.
C'est une patrouille d'une douzaine de véhicules qui a été prise pour cible hier après-midi, près de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Le convoi militaire transportait 64 soldats. Seule une vingtaine d'entre eux, à bord de 3 pick-up, a pu s'exfiltrer et regagner le camp malien de Goma Koura, à 70 kilomètres de la Mauritanie. Les autres sont actuellement portés disparus et l'armée de l'air a commencé des recherches. On ignore pour l'heure comment s'est déroulée cette embuscade et avec combien d'assaillants. Aucune revendication non plus pour l'instant. Le centre du Mali est une des zones fragiles, a rappelé le ministère français des Affaires étrangères lors de la visioconférence de la coalition pour le Sahel vendredi dernier. Si ces dernières semaines, des points ont été marqués militairement avec la neutralisation de chefs djihadistes et que depuis le sommet de Pau, certains villages ont vu le retour de l'État et de leur population, beaucoup reste encore à faire, a insisté le Quai d'Orsay. Depuis ces 3 derniers mois, indiqué le secrétaire général de l'ONU, le Mali a encore payé un lourd tribut avec 169 civils tués dans des actes de violence. Quant aux forces armées et de sécurité maliennes, elles ont, elles, subi 49 attaques avec 67 morts et 86 blessés parmi les soldats. Un bilan qui devrait donc s'alourdir avec l'embuscade de dimanche.
Les premières condamnations tombent dans le volet financier de l'affaire Karachi. Le tribunal correctionnel de Paris a infligé aujourd'hui des peines de prison ferme à 6 prévenus, dont 2 anciens collaborateurs de l'ex-premier ministre Édouard Balladur. Rappelons que la justice enquête sur des commissions occultes, sur des contrats d'armement signés en 1994 avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Commissions qui ont, selon le tribunal, financé en partie la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Les explications de Florent.
Ce sont les deux intermédiaires du réseau K qui sont condamnés aux peines les plus lourdes. 5 ans de prison pour l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine et son ancien associé Abdulrahman Al-Assir, tous deux absents lors du délibéré. Des mandats d'arrêt ont par ailleurs été émis à leur encontre. Mais le tribunal a également infligé des peines fermes aux 3 hommes politiques jugés dans cette affaire. 3 ans pour Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet et chef de campagne d'Edouard Balladur, et Renaud Donodieu de Vabre, alors proche collaborateur du ministre de la Défense François Léotard, 2 ans ferme pour Thierry Gobert. Avec des mots très durs pour qualifier une atteinte d'une exceptionnelle gravité à l'ordre économique et en la confiance dans le fonctionnement de la vie publique. Car si les commissions n'étaient pas à l'époque considérées comme illégales, les juges ont estimé leur montant exorbitant et qui plus est inutile pour conclure des contrats quasiment acquis avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Des conditions très privilégiées qui auraient ensuite conduit au versement de rétro-commissions venues alimenter les compte de la campagne électorale d'Edouard Balladur à hauteur de 10 250 000 francs. Et ce jugement résonne déjà comme un avertissement pour l'ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense, François Léotard, qui seront pour leur part jugés prochainement devant la Cour de justice de la République.
Florence Thieu, merci. Les 6 prévenus ont annoncé leur intention de faire appel. La mobilisation mondiale contre le racisme dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis a relancé le débat sur les statistiques ethniques en France jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dans une tribune publiée samedi par le journal Le Monde, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, en a défendu le principe. Elle y voit un moyen de lutter contre, je cite, une forme de racisme impensé dans notre pays. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Sibeth Ndiaye apparaît très isolée dans sa défense des statistiques ethniques qui sont interdites, rappelons-le, en France. Pour le moment, Emmanuel Macron n'en veut pas.
Et c'est un débat que le chef de l'État ne veut pas ouvrir, pas en ce moment, tant le sujet est sensible avec ses mobilisations contre le racisme et les violences policières, et parce qu'il pourrait aussi parasiter la sortie du déconfinement et les grands chantiers d'Emmanuel Macron jusqu'à la présidentielle. Ce que dit Sibeth Ndiaye, c'est « donnons-nous des outils pour mesurer la diversité, pour regarder la réalité en face ». Bruno Le Maire lui oppose une fin de non-recevoir en rappelant l'universalisme républicain. Son collègue à Bercy, Gérald Darmanin, lui emboîte le pas, plutôt des statistiques géographiques que des statistiques ethniques. Alors, si la législation française permet aux chercheurs de conduire des enquêtes statistiques encadrées par la loi informatique et liberté, ces statistiques ne sont pas ethno-raciales, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. C'est d'ailleurs écrit dans le marbre de la Constitution de 58. La République française assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Hier, le chef de l'État a promis de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances, sans en dire plus. Cela se traduira par des actions concrètes, assure-t-on à l'Élysée aujourd'hui, mais sûrement pas lors d'un nouveau débat.
Pierre Neveu, merci. Un autre dossier donne lieu à des déclarations divergentes au sein du gouvernement, celui du chômage partiel. Le dispositif va être réduit, ont annoncé successivement la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Pas du tout, rétorque cet après-midi Muriel Pénicaud. Catherine Pétillon, ce cafouillage prouve que la question est loin d'être tranchée.
Pour l'instant, ça continue. Il n'y aura ni baisse de l'indemnisation du chômage partiel pour les salariés, ni diminution de sa prise en charge pour les entreprises au 1er juillet. Voilà ce qu'a annoncé le ministère du Travail ce matin. Depuis le 1er juin, les employeurs doivent déjà prendre en charge 15% du coût du chômage partiel. Cela ne bouge pas pour l'instant, contrairement à ce qu'avait laissé entendre dans un certain cafouillage ministériel Agnès Pannier-Runacher puis Gérald Darmanin, qui encore ce matin évoquait une nouvelle baisse. Il faut dire que le sujet fait l'objet d'importantes discussions. L'exécutif cherche comment se retirer peu à peu du financement de ce dispositif, lequel a été complètement remanié et élargi avec la crise afin de le rendre plus accessible, mais en conséquence pèse lourd sur le budget et l'UNEDIC qui le finance pour un tiers. Mais entre les entreprises demandant du soutien et les syndicats craignant sinon des licenciements, les oppositions sont vives à une nouvelle diminution des aides. Cela devrait donc rester en l'état jusqu'à la rentrée. C'est à ce moment-là qu'entrera en vigueur une nouvelle version de l'activité partielle destinée à durer. Et avec cette fois certainement une participation de l'État plus basse, les partenaires sociaux et le ministère du Travail en discutent depuis lundi dernier et les arbitrages sont attendus cette semaine, tout comme ceux concernant un autre dispositif qui devrait être créé en même temps concernant concernant cette fois l'activité partielle longue durée destinée à certains secteurs particulièrement touchés.
Catherine Pétillon, merci. À partir de demain, l'attestation employeur ne sera plus nécessaire pour se déplacer dans les transports en Île-de-France. La préfecture de région l'a annoncé cet après-midi dans un communiqué. Hier, Emmanuel Macron avait acté le passage de l'Île-de-France en zone verte grâce à l'amélioration de la situation sanitaire. Il n'y a plus de restrictions de déplacement en métropole et la SNCF compte bien reconquérir la clientèle perdue pendant le confinement. Elle multiplie les offres promotionnelles comme ses 2 millions de billets de TER à moins de 10 euros ou bien encore la gratuité pour les abonnés TER qui voyageront dans d'autres régions. Il faut dire, Anne-Laure Choin, que la pandémie a bouleversé les habitudes de déplacement des Français et le train en a fait les frais.
Le travail à distance, l'impression d'être plus en sécurité, celle dans sa voiture qu'en compagnie d'autres voyageurs dans le train, ou encore la nécessité pour pouvoir circuler d'avoir une attestation parfois compliquée à obtenir, enfin la quasi mise à l'arrêt des voyages professionnels, autant de facteurs qui ont fait chuter la fréquentation des TER et des autres lignes de la SNCF. Une fréquentation qui remonte bien moins vite qu'attendue. L'entreprise a dû supprimer 5% de ses TGV cet été, faute de réservation, et ce malgré une première opération commerciale, 3 millions de billets à moins de 49 euros. Cette nouvelle opération TER, en partenariat avec les régions, a pour but d'accélérer une reprise trop lente, 25% du trafic habituel, alors que selon la direction de la SNCF, le réseau régional gagnait des clients avant le confinement. L'entreprise ferroviaire a beaucoup perdu à cause de la crise, près de 4 milliards d'euros, sans bénéficier pour l'instant, en tout cas, d'un plan de relance ferroviaire, comme en ont profité les secteurs automobiles et aériens. Sans compter enfin que le réseau est vieillissant, alors que le ferroviaire est une mobilité peu polluante. Enfin, il y a l'ouverture prochaine à la concurrence. La SNCF doit convaincre ses usagers que son offre est la plus attractive.
Anne-Laure Choin, merci. Jusqu'à présent, son utilisation n'était que tolérée pour lutter contre l'alcoolisme, mais à partir de ce lundi 15 juin, l'Agence du médicament autorise la commercialisation du baclocure, un traitement à base de baclofène, la fameuse molécule miracle qui permettrait à certains patients de se débarrasser de leur addiction à l'alcool. Mais les autorités sanitaires ont voulu encadrer fortement sa prescription. Elles recommandent de ne pas dépasser une posologie de 80 mg par jour, Tarache.
Si la plupart des patients réduisent leur dépendance en prenant progressivement jusqu'à 80 mg de baclofène par jour, ce n'est pas suffisant pour tous, rappelle le médecin généraliste Xavier Aknin. Il consulte à Paris dans un centre de prévention.
Il y a des patients qui ont besoin de plus parce qu'il y a quand même un effet dose dans le baclofène. Et moi, j'ai des patients qui ont eu besoin de 130 ou 140 mg de baclofène par jour pour pouvoir atteindre des niveaux de consommation à faible risque.
La démarche du médecin sera alors un peu particulière.
Le traitement sera à la charge du patient et pour être quand même dans les clous, on fera une demande au médecin conseil de la sécurité sociale. Alors certainement que selon les départements, on aura des réponses différentes, mais au moins c'est pour officialiser le fait qu'il y a des patients qui auront besoin de plus.
Avec l'espoir que les recommandations évoluent. Autre critère qui pourrait changer, le taux de remboursement par la Sécurité sociale qui n'est que de 15% pour l'instant. Jean-Michel Delisle, psychiatre, préside la Fédération Addiction.
C'est quand même supérieur à l'homéopathie, mais très faible compte tenu de la situation de fréquente précarité dans laquelle se trouvent les personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool. Il aurait été préférable d'avoir un taux de remboursement beaucoup plus important dans la mesure où c'est un véritable enjeu de santé publique. Mais finalement, ce sont aux praticiens et aux patients de montrer les bénéfices qu'ils obtiennent grâce à cette molécule, ce qui permettra peut-être de réviser ensuite ces taux de remboursement à l'avenir.
Les défenseurs du médicament se félicitent déjà de cette commercialisation. Cela fait 10 ans qu'ils l'espéraient.
Tara Schlegel, c'est le groupe belge Rossel qui a été choisi pour reprendre le quotidien Paris-Normandie. Décision aujourd'hui du tribunal de Rouen. Rossel s'est engagé à ne licencier que 60 des 240 salariés du journal. La CGT du Livre était favorable à cette solution de reprise. Paris-Normandie tire aujourd'hui à 41 000 exemplaires. Le groupe Rossel détient déjà un autre quotidien régional français, La Voix du Nord. Un renfort d'une centaine de personnels de forces de l'ordre a été dépêché aujourd'hui à Dijon. C'est ce qu'annonce la préfecture et c'est cela après des violences inédites survenues au cours du week-end lors de 3 expéditions punitives menées par des dizaines de Tchétchènes. Des renforts arriveront dès ce soir, 1 ou 2 compagnies afin de sécuriser et de rassurer. C'est ce que déclare à l'AFP le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, qui s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le temps demain restera maussade et pluvieux sur presque tout le pays. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront d'un ciel ensoleillé. Ailleurs, les averses orageuses seront nombreuses. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 18 degrés du nord au sud. Pour les maximales, comptez de 17 à 27 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.